Chapitre 2. Nous touchions au paroxysme de la révolution et de la terreur. On ne gouvernait plus qu'avec le fer qui tranchait les têtes. Le soupçon et la défiance rongeaient tous les cœurs, l'effroi planait sur tous. Ceux même qui tenaient dans leurs mains l'arme de la terreur en étaient menacés. Un seul homme dans la convention semblait jouir d'une popularité inattaquable, c'était l'artésien Robespierre, plein d'astuces et d'orgueil, être envieux, haineux, vindicatif, ne pouvant se désaltérer du sang que de ses collègues et qui, par son aptitude, sa tenue, la suite de ses idées et l'opiniâtreté de son caractère, s'élevait souvent au niveau des circonstances les plus terribles. Usant de sa prépondérance au comité de salut public, il aspirait ouvertement, non plus à la tyrannie des Semvirales, mais au despotisme de la dictature des Marius et des Sylla. Il n'avait plus qu'un pas à faire pour rester le maître absolu de la révolution qui nourrissait l'ambitieuse audace de gouverner à son gré. Mais il fallait encore 30 têtes. Il les avait marquées dans la convention. Il savait que je l'avais deviné. Aussi avais-je l'honneur d'être inscrit sur ses tablettes à la colonne des morts. J'étais encore en mission quand il m'accusa d'opprimer les patriotes et de transiger avec l'aristocratie. Rappelé à Paris, j'osai le sommet, du haut de la tribune, de motiver son accusation. Il me fit chasser des Jacobins dont il était le grand prêtre, ce qui pour moi équivalait à un arrêt de proscription. Je ne m'amusais point à disputer ma tête ni à délibérer longuement dans des réunions clandestines avec ceux de mes collègues menacés comme moi. Il me suffit de leur dire, entre autres, à Legendre, à Tallien, à Dubois, de Crancé, à Cournou, à Chénier, « vous êtes sur la liste ainsi que moi, j'en suis sûr ». Tallien, Barras, Bourdon de Loise et Dubois de Crancé montrèrent quelque énergie. Tallien luttait pour deux existences dont l'une lui était alors plus chère que sa vie, aussi était-il décidé à frapper de son poignard le futur dictateur au sein même de la Convention. Mais quelle chance hasardeuse ! La popularité de Robespierre lui eût survécu et on nous aurait immolé sur sa tombe. Je détournais Tallien d'une entreprise isolée qui eût fait tomber l'homme et maintenir son système. Convaincu qu'il fallait d'autres ressorts, j'allais droit à ceux qui partageaient le gouvernement de la terreur avec Robespierre et que je savais être envieux ou craintif de son immense popularité. Je révélais à Collot d'Herbois, à Carnot, à Billot de Varennes, les dessins du moderne Appius et je leur fis séparément un tableau aussi énergique et si vrai du danger de leur position. Je les stimulais avec tant d'adresse et de bonheur que je fis passer dans leur âme plus que de la défiance, le courage de s'opposer désormais à ce que le tyran décima davantage la convention. « Comptez les voix, leur dis-je, dans votre comité, et vous verrez qu'il sera réduit, quand vous le voudrez fortement, à l'impuissante minorité d'un Couthon ou d'un Saint-Just. Refusez-lui votre vote et réduisez-le à l'isolement par votre force d'inertie. » Mais que de ménagements, de biais à prendre pour ne pas effaroucher la société des Jacobins, pour ne pas aigrir les séites, les fanatiques de Robespierre. Sûr d'avoir semé, j'eus le courage de le braver le 20 prairial, le 8 juin 1794, jour où, animé de la ridicule prétention de reconnaître solennellement l'existence de l'être suprême, il osa s'en proclamer à la fois l'arbitre et l'intermédiaire en présence de tout un peuple assemblé aux Tuileries. Tandis qu'il montait les marches de sa tribune aérienne, d'où il devait lancer son manifeste en faveur de Dieu, je lui prédis tout haut, 20 de mes collègues l'entendirent, que sa chute était prochaine. 5 jours après, en plein comité, il demanda ma tête et celle de 8 de mes amis, se réservant d'en faire abattre plus tard encore 20 au moins. Quel fut son étonnement et combien il s'irrita de trouver parmi les membres du comité une opposition invincible à des destins sanguinaires contre la représentation nationale. « Elle n'a déjà été que trop mutilée, lui dirent-ils, et il est temps d'arrêter une coupe réglée qui finirait par nous atteindre. » Voyant la majorité du vote lui échapper, il se retira plein de dépit et de rage, jurant de ne plus mettre les pieds au comité tant que sa volonté y serait méconnue. Il rappelle aussitôt à lui Saint-Just qui était aux armées, il rallie Couthon sous sa bannière sanglante, et maîtrisant le tribunal révolutionnaire, il fait encore trembler la Convention et tous ceux en grand nombre qui sacrifient à la peur. Sûr à la fois de la société des Jacobins, du commandant de la garde nationale, Henriot, et de tous les comités révolutionnaires de la capitale, il se flatte qu'avec tant d'adhérents, il finira par l'emporter. En se tenant aussi éloigné de l'antre du pouvoir, il voulait rejeter sur ses adversaires l'exécration générale, les faire regarder comme les auteurs uniques de tant de meurtres et les livrer à la vengeance d'un peuple qui commençait à murmurer de voir couler tant de sang. Mais lâche, défiant et timide, il ne sut pas agir, laissant écouler 5 semaines entre cette dissidence clandestine et la crise qui se préparait en silence. Je l'observais, et le voyant réduit à une faction, je pressais secrètement ses adversaires, qui restaient cramponnés au comité, d'éloigner au moins les compagnies de canonniers de Paris, toutes dévouées à Robespierre et à la Commune, et de révoquer ou de suspendre Henriot. J'obtins la première mesure grâce à la fermeté de Carnot, qui allégua la nécessité de renforcer les artilleurs aux armées. Quant à la révocation d'Henriot, ce coup de parti parut trop fort. Henriot resta et faillit tout perdre, ou plutôt, l'avouerai-je, ce fut lui qui compromit le 9 Thermidor, 27 juillet, la cause de Robespierre dont il eut un moment le triomphe dans sa main. Qu'attendre aussi d'un ancien laquais, ivre et stupide? Le reste est trop connu pour que je m'y arrête. On sait comment périt Maximilien Ier, que certains écrivains voudraient comparer au Grac, dont il n'eut ni l'éloquence ni l'élévation. J'avoue que, dans l'ivresse de la victoire, je dis à ceux qui lui prêtaient des desseins de dictature, « Vous lui faites bien de l'honneur, il n'avait ni plan ni vue. Loin de disposer de l'avenir, il était entraîné, il obéissait à une impulsion qu'il ne pouvait ni suspendre ni diriger. » Mais j'étais trop près alors de l'événement pour être près de l'histoire. L'écroulement subit du régime affreux qui tenait toute la nation entre la vie et la mort fut sans doute une grande époque d'affranchissement. Mais le bien ici-bas ne saurait se faire sans mélange. Qu'avons-nous vu après la chute de Robespierre? Ce que nous avons vu après une chute bien plus mémorable. Ceux qui s'étaient les plus avilis devant le décemvir ne trouvaient plus, après sa mort, d'expression assez violente pour peindre leur haine. On eut bientôt à regretter qu'une si heureuse crise n'ait pu être régularisée au profit de la chose publique, au lieu de servir de prétexte pour assouvir la haine et la vengeance des victimes qu'avait froissé le char de la Révolution dans sa course. On passa de la terreur à l'anarchie, de l'anarchie aux réactions et aux vengeances. La Révolution fut flétrie dans ses principes et dans son but. Les patriotes restèrent exposés longtemps à la rage des sicaires organisés en compagnie du Soleil et de Jésus. J'avais échappé aux proscriptions de Robespierre, je ne pus éviter celles des réacteurs. Ils me poursuivirent jusque dans la Convention, dont ils me firent expulser par un décret inique, à force de récriminations et d'accusations mensongères. Je passai presque une année en butte à toutes sortes d'avanies et de persécutions odieuses. C'est surtout alors que j'appris à méditer sur les hommes et sur le caractère des factions. Il fallut attendre, car tout parmi nous est toujours poussé à l'extrême, il fallut attendre que la mesure fût comblée, que les fureurs de la réaction missent en péril la Révolution même et la Convention en masse. Alors, et seulement alors, elle vit l'abîme entrouvert sous ses pas. La crise était grave, il s'agissait d'être ou de ne pas être. La Convention arma, la persécution des patriotes eut un terme et le canon d'une seule journée, 13 vendémiaires, firent entrer dans l'ordre la tourbe des contre-révolutionnaires qui s'étaient imprudemment soulevés sans chef et sans aucun centre d'action et de mouvement. Le canon de vendémiaires, dirigé par Bonaparte, m'avait en quelque sorte rendu la liberté et l'honneur. J'avoue que je m'intéressais davantage à la destinée de ce jeune général, se frayant la route qui devait le conduire bientôt à la plus étonnante renommée des temps modernes. J'eus pourtant à me débattre encore contre les rigueurs d'un destin qui ne semblait pas devoir fléchir de sitôt et m'être propice. L'établissement d'un régime dictatorial à la suite de cette dernière convulsion ne fut autre chose que l'essai d'un gouvernement multiple, appelé comme régulateur d'une république démocratique de 40 millions d'individus, car le Rhin et les Alpes formaient déjà notre barrière naturelle. Certes, c'était là un essai d'une grande hardiesse en présence des armées et de la coalition naissante des gouvernements ennemis ou perturbateurs. La guerre faisait notre force, il est vrai, mais elle était mêlée de revers et l'on ne démêlait pas trop encore qui des deux systèmes, de l'ancien ou du nouveau, finirait par l'emporter. On semblait tout attendre plutôt de l'habileté des hommes chargés de la conduite des affaires que de la force des choses et de l'effervescence des passions nouvelles. Trop de vices se faisaient apercevoir. Notre intérieur n'était pas d'ailleurs facile à mener. Ce n'était pas sans peine que le gouvernement dictatorial cherchait à se frayer une route sûre entre deux partis, actifs et hostiles, celui des démagogues qui ne voyaient dans nos magistrats temporaires que des oligarques bons à remplacer, et celui des royalistes auxiliaires du dehors qui, dans l'impuissance de frapper fort et juste, entretenaient dans les provinces du Midi et de l'Ouest des ferments de guerre civile. Toutefois, le directoire, comme tout gouvernement neuf, qui presque toujours a l'avantage d'être doué d'activité et d'énergie, se créa des ressources et réorganisa la victoire aux armées en même temps qu'il parvint à étouffer la guerre intestine. Mais ils s'inquiétaient trop peut-être des menées des démagogues, et cela parce qu'ils avaient leur foyer dans Paris sous ses propres yeux et qu'ils associaient dans leur haine pour tout pouvoir coordonner tous les patriotes mécontents. Ce double écueil, entre lequel on eût pu naviguer pourtant, fit dévier la politique du directoire. Il délaissa les hommes de la Révolution, durant lesquels il était sorti lui-même, favorisant de préférence ces caméléons sans caractère, instruments du pouvoir tant qu'il en est en force, et ses ennemis dès qu'il chancelle. On vit cinq hommes investis de l'autorité suprême, et qui, dans la Convention, s'étaient fait remarquer par l'énergie de leur vote, repousser leurs anciens collègues, caresser les métis et les royalistes et adopter un système tout à fait opposé à la condition de leur existence. Ainsi, sous le gouvernement de la République, dont j'étais un des fondateurs, je fus, sinon proscrit, du moins en disgrâce complète, n'obtenant ni emploi, ni considération, ni crédit, et partageant cette inconcevable défaveur pendant près de 3 ans avec un grand nombre de mes anciens collègues d'une capacité et d'un patriotisme éprouvés. Si je me fis jour enfin, ce fut à l'aide d'une circonstance particulière et d'un changement de système amené par la force des choses. Ceci mérite quelques détails. De tous les membres du directoire, Barras était le seul qui fut accessible pour ses anciens collègues délaissés. Il avait, et il méritait, la réputation d'une sorte d'obligeance, de franchise et de loyauté méridionale. Il n'était pas fort en politique, mais il avait de la résolution et un certain tact. Le décrit exagéré de ses mœurs et de ses principes moraux était précisément ce qui lui attirait une cour qui fourmillait d'intrigants, d'intrigantes et de vampires. Il était alors en rivalité avec Carnot et ne se soutenait dans l'opinion publique que par l'idée qu'au besoin, on le verrait à cheval, bravant comme aux 13 Vendémiaires toute tentative hostile. Il tranchait d'ailleurs du prince de la République, allait à la chasse, ayant des meutes dressées, des courtisans et des maîtresses. Je l'avais connu avant et après la crise de Robespierre, et j'avais remarqué alors que mes réflexions et mes pressentiments l'avaient frappé par leur justesse. Je le vis en secret, par l'intermédiaire de Lombard Tarado, comme lui méridional, l'un de ses commensaux et de ses confidents. C'était dans les premiers embarras du directoire, alors aux prises avec la faction Babeuf. Je communiquai à Barras mes idées, il m'invita de lui-même à les consigner dans un mémoire, je le lui remis. La position du directoire y était considérée politiquement et ses dangers énumérés avec précision. Je caractérisai la faction Babeuf qui s'était dévoilée à moi et je fis voir que tout en rêvant de lois agraires, elle avait pour arrière-pensée de s'emparer d'assaut et par surprise du directoire et du pouvoir, ce qui nous eût ramené à la démagogie par la terreur et le sang. Mon mémoire fit impression et on coupa le mal dans sa racine. Maras m'offrit alors une place secondaire que je refusai, ne voulant arriver aux emplois que par la grande route. Il m'assura qu'il n'avait point assez de crédit pour m'élever, ses efforts pour vaincre les préventions de ses collègues contre moi ayant été infructueuses. Le refroidissement s'en mêla et tout fut ajourné. Dans l'intervalle, une occasion se présenta de songer à me rendre indépendant sous le rapport de la fortune. J'avais sacrifié à la Révolution mon état et mon existence, et par l'effet des préventions les plus injustes, la carrière des emplois m'était fermée. Mes amis me pressèrent de suivre l'exemple de plusieurs de mes anciens collègues qui, se trouvant dans le même cas que moi, obtenaient, par la protection des directeurs, des intérêts dans les fournitures. Une compagnie se présenta, je m'y associai, et j'obtins par le crédit de Barras une partie des fournitures. Je commençai ainsi ma fortune, à l'exemple de Voltaire, et je contribuai à celle de mes associés, qui se distinguèrent par leur exactitude à remplir les clauses de leur marché avec la République. J'y tenais la main moi-même, et dans cette sphère nouvelle, je me trouvais dans le cas de rendre plus d'un service à des patriotes délaissés. Cependant, le mal s'aggravait de l'intérieur. Le directoire confondait la masse des hommes de la Révolution avec les démagogues et les anarchistes. Il ne portait pas de coup à ces derniers sans que les autres n'en ressentissent le contre-coup. On laissait à l'opinion publique la plus fausse direction. Les républicains tenaient les rênes de l'État et ils avaient contre eux les passions et les préventions d'une nation impétueuse et légère qui s'obstinait à ne voir que des terroristes, des hommes de sang dans tous les élateurs de la liberté. Le directoire lui-même, entraîné par le torrent des préventions, ne pouvait suivre la marche prévoyante qui l'eût préservé et affermi. L'opinion publique était faussée et pervertie chaque jour davantage, par des écrivains serviles, par des folliculaires aux gages de l'immigration ou de l'étranger, prêchant ouvertement la ruine des institutions nouvelles. Leur tâche consistait surtout à avilir les républicains et les chefs de l'État. En se laissant flétrir et déconsidérer, le directoire, dont les membres étaient divisés par un esprit de rivalité et d'ambition, perdit tous les avantages qu'offre le gouvernement représentatif à ceux qui ont assez d'habileté pour le maîtriser et le conduire. Qu'arriva-t-il? Au moment même où nos armées triomphaient de toutes parts, où maîtres du cours du Rhin nous faisions la conquête de l'Italie au nom de la Révolution et de la République, l'esprit républicain périssait dans l'intérieur et l'opération des élections tournait au profit des contre-révolutionnaires et des royalistes. Un grand déchirement devint inévitable dès que la majorité des deux conseils se fut déclarée contre la majorité du directoire. Il s'était formé une espèce de triumvirat composé de Barras, Rebelle et Revellière le Pot, trois hommes au-dessous de leurs fonctions dans une telle crise. Ils s'aperçurent enfin qu'il ne leur restait plus d'autre appui que celui du canon et des baïonnettes. Au risque de mettre en jeu l'ambition des généraux, il fallut faire intervenir les armées, autre danger grave, mais qui, plus éloigné, fut moins prévu. Ce fut alors qu'on vit Bonaparte, conquérant de la Lombardie et vainqueur de l'Autriche, former dans chacune des divisions de son armée un club, faire délibérer ses soldats, leur signaler les deux conseils comme des traîtres vendus aux ennemis de la France, et, après avoir fait jurer à son armée sur l'autel de la patrie d'exterminer les brigands modérés, envoyer des adresses menaçantes en provision dans tous les départements et dans la capitale. Au nord, l'armée ne se borna point à délibérer et à signer les adresses. Hoche, général en chef de l'armée de Sambre-et-Meuse, dirigea sur Paris des armes, des munitions et fit marcher ses troupes sur les villes voisines. Par des ressorts secrets, ce mouvement fut tout à coup suspendu sans qu'on ne pût encore s'entendre sur les coups à porter aux deux conseils, soit ce que j'ai le plus de motifs de croire, qu'on voulut ménager aux vainqueurs de l'Italie une influence plus exclusive dans les affaires. Il est sûr que les intérêts de Bonaparte étaient représentés alors par Barras dans le triumvirat directorial et que l'or de l'Italie coulait comme un nouveau pactole au milieu du Luxembourg. Des femmes s'en mêlèrent, elles conduisaient alors toutes les intrigues. Le 4 septembre, 18 Fructidor, un mouvement militaire assujettit la capitale sous la direction d'Augereau, lieutenant de Bonaparte, envoyé tout exprès. De même que dans tous les déchirements où interviennent les soldats, la toge fléchit devant les armes. On déporte sans forme judiciaire deux directeurs, 53 députés, un grand nombre d'auteurs et d'imprimeurs de feuilles périodiques qui avaient perverti l'opinion. Les élections de 49 départements sont suspendues pour être réorganisées dans le sens de la nouvelle révolution. C'est ainsi que les royalistes furent vaincus et dispersés sans bataille par le seul effet de l'appareil militaire, que les sociétés populaires purent se recomposer, que la réaction contre les républicains eut un terme, que le titre de républicain et de patriote ne fut plus un motif d'exclusion pour arriver aux emplois et aux honneurs. Quant au Directoire, où Merlin de Douai et François de Neufchâteau vinrent remplacer Carnot et Barthélemy, tous deux compris dans la mesure de déportation, il acquit d'abord une certaine apparence d'énergie et de force, mais au fond, ce n'était qu'une force factice, incapable de résister aux orages et aux revers. Ainsi, ce n'était que par la violence qu'on remédiait au mal, exemple d'autant plus dangereux qu'il compromettait l'avenir.